tout de suite. C'est la bande-annonce 100% énervée de ce qui vous attend. Cette semaine, on ouvre sur qui ? Sur Daniel Auteuil, qui joue Molière.
Ah, je n'en puis plus. Ah, je sens déjà que la médecine se venge. Hein.
Molière est un auteur qui nous va si bien, nous autres acteurs.
Refais l'accent belge. Et je t'explose ta gueule, t'as compris ?
Il y a personne qui veut voter Benoît Hamon ici ? Non ?
C'est une blague ?
Non, non, c'est pas du tout une blague.
Défendre les libertés fondamentales, c'est forcément se retrouver à défendre les fachos, les islamistes et les putes, quoi. Accepter cette idée, faut avoir le goût, quelque part, de la fréquentation de ces marginaux.
Je crois qu'on a raté votre réponse. Est-ce qu'on peut faire la même aussi bien, monsieur Macron ? Je suis sûr que vous allez y arriver.
Le temps du dessin, c'est un temps qui est long. C'est le temps dont j'ai besoin pour pouvoir réfléchir à tout ça. Parce que je suis un peu lent.
Le plus important, c'est de trouver son rythme. De marcher régulièrement.
J'écoute beaucoup de musique, je vais voir plein de choses. J'essaye de voir, est-ce que ça, quelque part, quand je suis simplement devant ma feuille, qu'est-ce qu'il en sort de ça ?
On n'est pas ici pour faire une compétition ou je ne sais quoi. On est ici pour profiter de la nature. D'accord ?
Quand je me réveille le matin, j'entends le vent ululer. Tous les matins, même quand il n'y a pas de vent.
I woke up awfully early. Something disturbed my...
Mais c'est la voix de J.J. Johnson. Il sera en live jeudi prochain avec un énervé la suite spéciale 40 ans d'électro. Daniel Auteuil en malade imaginaire et Nicolas Gardère, l'avocat très mauvais genre. Ce sera mercredi. On parlera aussi de journalistes en campagne électorale. Philippe Dian qu'on a entendu, c'est pour demain avec Jérôme Zonder, dessinateur virtuose. Mais tout de suite, un gros plan sur nos invités. Benoît Poulvord et Pierre Godot au cinéma. Et Hubert Lenoir en session live. Générique.
Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Oui.
Bonsoir, c'est le NRV. Nous sommes lundi 15 avril. Bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, Benoît Poulvord est notre invité 3 en 1. On l'a vu en libraire sadomaso dans Blanche comme neige. On le retrouvera en représentant de commerce dans Venise n'est pas en Italie. Il est ce soir en selle pour Raoul Taburin à un secret. La petite histoire d'un grand imposteur dessiné par Sampé et adapté au cinéma par Pierre Godot. Un héros qui déraille, un personnage isolé dans son mensonge et qui perd l'équilibre. Attention à la chute et bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés ou plus non, déjà derrière son micro avec ses acolytes, Hubert Lenoir, phénomène de la chanson québécoise. Il est notre invité live ce soir, Marion Guilbeault.
Petit cousin québécois, gros frisson de l'année musicale, Laurent.
Eh bien, le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et on part tout de suite en live, c'est ça ? Et paraît que ça va castonner.
Ah, ça va faire un peu de bruit, vous êtes juste à côté de la batterie, Laurent, il faudra faire attention.
Je vais me pousser, vous allez
voir ça. Hubert Lenoir, il a fait sensation dernière transmusicale avec un live totalement décoiffant, c'est une bête de scène, c'est une vraie botte de mode aussi. Le maquillage, les jolies robes, ça lui fait pas peur. Aujourd'hui, il a choisi le bonnet rose, le collier de chien. Enfin, bête de musique aussi, parce que son premier album, Darlène, a tout raflé au Félix québécois cette année. C'est l'équivalent de nos victoires de la musique. Révélation de l'année, album pop, chanson pop, choix de la critique, Darlène. Est un album roman qu'il a écrit avec sa blonde, la très blonde Noémie Leclerc. Elle est en régie et s'est imaginé comme un opéra post-moderne avec des chansons dorées qui appellent à s'affranchir des genres et à s'émanciper. C'est à vous, Bernard Lenoir. C'est à vous, Hubert Lenoir. Excusez-moi, on est sur France Inter, c'est normal.
Oh bébé, j'aime tes seins. Les jours se suivent et se ressemblent. Les vêtements sont une seule sur toi. T'as pas le droit de recommencer sans moi. Je
plus, Bernard, c'est promis.
C'est vrai que c'est dans le tropisme de France, bah ouais, France Inter. Ouais.
C'est ça, recommencer, c'est extrait de son premier album Darlène, qui sortira d'ailleurs en vinyle, en série limitée, avec un truc super, 5 pochettes différentes, avec une lettre manuscrite signée Hubert Lenoir et un Polaroid. Ça va, Hubert Lenoir ?
Ça va bien, oui.
Ça se passe bien ici, en France ?
Atterrissage hier, hein, c'est ça ?
Hier,
ouais. Ah ouais.
De Montréal.
Pour combien de temps ?
En Europe pour 15, 18, je sais, j'ai aucune idée.
Le temps de faire quelques commentaires.
Quel hôtel Benoît Poulvord, quel hôtel
Stay City, dans le...
Aucune idée non plus, c'est pas du tout d'accord. Il vient d'arriver, complètement jetlagué. On vous retrouvera dans quelques instants pour un second live et puis on a plein de questions à vous poser. D'abord, une question par rapport à ce nom que vous avez choisi. Le Noir, il vient d'où ? Pour quelle raison vous avez changé de nom pour ce premier album ? Parce qu'avant, il y avait eu un groupe avec vos frères, on en parlera tout à l'heure, mais changer de nom, pseudonyme ?
Parce que j'ai changé mon nom légalement aussi, je préfère ce nom-là.
Ah, vous avez tout changé, légalement aussi ?
Mm-hmm.
D'accord.
Parce que dans la vie, on a le droit d'être ce qu'on veut, fait que j'ai décidé de... Je pense que j'ai le droit de changer de nom aussi, si j'en ai envie. En fait, c'est un hommage, j'avais vu Noémie Lenoir à la télé.
Noémie Lenoir, pour préciser, c'est aussi une chanteuse...
Non, c'est pas une chanteuse.
C'est une mannequin. Ah, mannequin, je croyais qu'elle chantait aussi.
Peut-être, j'allais juste une fois à la télé en fait.
Et donc c'est ça qui vous a dit de changer de nom quoi. Mm-hmm.
J'avais envie de devenir réel.
Bon, c'est presque fait. Ça devrait faire dans...
Devenir une femme ?
Ben, ça peut être possible.
Tout est possible.
Exactement. Benoît Poulvord, c'est votre vrai nom ?
Ouais. Si j'avais dû choisir un nom, j'aurais pas choisi celui-là. Personne n'arrive à le dire sans le bousiller.
Ah bon ? Comment il faut dire ? Le vrai nom c'est quoi alors ?
Poulvord. Poulvord. C'est le deux qui est compliqué. Mais tu te doutes bien, si je devais choisir un autre nom, j'aurais pris un truc qui claque un peu. Tu vois, Burton ou... C'est mon pseudo dans les trucs de...
Benoît Delon, quelque chose comme ça.
Je dis ça pour toutes les celles qui m'écoutent. Burton, parce qu'il faut donner des noms, tu sais, des noms dans les...
Cinéma avec vous, Benoît Poulvord, donc, et Pierre Godot, réunis pour Raoul Taburin, Un secret. Le film sortira en salle mercredi prochain. À l'origine, bien sûr, on le sait, un livre de 95 et des dessins de Sampé, que vous avez rencontré tous les deux, j'imagine, pour les besoins du film. Il a même collaboré, je crois, un petit peu au scénario. Je sais que vous avez fait des études de dessin. Vous destinez à quoi, d'ailleurs, vous, Benoît Poulvord ?
Normalement, comment est-ce qu'on appelait ça ? Graphiste et illustrateur.
Ouais.
Il y avait un petit peu de tout. Il y avait même de la photo. C'est une sorte de...
Oui, c'est un peu des études poubelles.
Hein. C'est un peu des études pour te faire plaisir. Tu sais, tu fais 4 ans, mais... Ouais, tu fais un petit peu ce que tu veux, tu peux faire de la pub, tu peux faire ce que tu veux.
Et vous avez dessiné un petit peu quand même ?
Ouais, j'ai dessiné bien sûr. J'ai fait des dessins pour enfants, mais j'avais été édité. Au moment où j'allais être édité, le film est sorti et puis...
Le premier ?
Ouais, j'ai trouvé que c'était plus facile de faire du cinéma. Et puis de toute façon, c'était moins laborieux. Voilà, donc je suis resté dans le cinéma. Je suis né.
Ouais, vous continuez à dessiner pour vous quand même ?
Pour expliquer des trucs, pour des dédicaces ou... Hein ? Ou alors quand je m'ennuie. Quand je m'ennuie, tu sais, comme les gens qui téléphonent. Quoi.
Ouais. Qui font ça en même temps. Pierre Godot, vous dessinez aussi le script, le storyboard pour le film vous...
Non,
quand on a Sampé comme référence, ça devient plus difficile.
Justement, ouais. Même les gens étaient curieux, ils me demandaient souvent, mais du coup, il n'y a pas de storyboard ? Je dis, encore moins.
Je me demande, est-ce que Sampé est connu au Québec ?
Quoi ça ?
Sampé, le dessinateur Sampé.
Je ne me connais pas dans le milieu du dessin, donc moi je ne connais pas.
Mais le petit Nicolas,
ça avait passé les frontières ?
Non.
Nous, on a ça.
Ouais, comme quoi, c'est vraiment une gloire française.
Il y a juste Astérix qui a passé les frontières.
Ah oui, c'est vrai, ouais.
Ah ouais, nous, c'est populaire.
Ah, pourtant, il y a... Ouais, oui, tu vois,
Astérix. Et
Tintin, quand même.
Tintin, j'imagine qu'il y en a d'autres.
J'ai tout lu, les Tintins, au complet.
Ah oui, moi aussi.
Sampé, pour vous, c'est quand même une histoire que vous développez depuis pas mal de temps. Vous avez enregistré les disques du petit Nicolas.
Oui, c'est vrai, j'ai fait des avec Audio Libre. Ouais, j'en ai fait 3, ouais. C'est fatigant. Hein. Là, j'ai travaillé, là. Non, c'est vrai, je l'ai fait, ouais. Mais il y a plus de mystère dans la voix, c'est pas à vous, je veux dire ça. Et c'est compliqué. C'est pour ça que c'était une gageure quand même qu'ils choisissent de faire un film là-dessus, parce que je me suis dit, est-ce que tu ne risques pas d'appauvrir un peu l'univers de Sampé, quoi. C'est casse-gueule. Hein. Le cinéma peut parfois ne pas rendre service. Donc j'espère qu'on n'a pas...
Donc vous avez hésité au départ, quand on vous a proposé le rôle ?
Oui, j'ai hésité. Ouais. Ah ouais. C'est parce que j'ai rencontré Pierre, qui est quelqu'un d'assez convaincant et qui aimait beaucoup Sampé autant que moi. Donc je me suis dit, lançons-nous. Mais après, c'était quand même un peu casse-gueule. Ouais.
Vous l'avez rencontré avant, Sampé ?
Non, jamais. J'ai dû le rencontrer grâce à
Pierre
qui m'a double, en quelque sorte.
Ah oui, d'accord.
Si oui ou non, j'étais pas...
Non, moi je le connaissais pas non plus, pas avant. Et je l'ai rencontré pendant. Mais pareil, j'hésitais beaucoup. c'était un point commun avec Benoît. Je crois qu'on se rendait très très bien compte de l'ampleur de la tâche. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est bien trouvé, quoi.
Bah d'ailleurs, Sempé, je pense que lui aussi, il pensait que le projet pouvait être casse-gueule.
Et il était très
sceptique. Oui, parce que c'est vraiment lui qui l'a écrit, celui-là.
Ouais. Sans autre scénariste. Il n'y avait pas de scénariste. Non. C'est pas comme avec Goscinny pour le petit Nicolas. Ouais. C'est ça qui est beaucoup plus difficile.
Non, c'était un peu son enfant, quoi. Parce qu'on essaye, même nous, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il essaye de dire. Parce que c'est pas aussi simple que de dire il ne fait pas de vélo, il ne sait pas faire de vélo. Il y a sûrement un autre sens, mais on n'a jamais su. C'est très difficile d'arriver à gratter chez Sempé.
Ah oui, c'est vrai.
Il fait vraiment peur, le silence dans votre studio.
On est vraiment complètement extérieur. On est derrière les travaux. J'ai mis un temps fou à arriver.
J'ai tellement pas l'habitude d'un truc où il fait tellement silencieux, tu vois. Alors je suis hyper.
Parce qu'on est dans les sous-sols, en fait. Normalement, on est nous en étage, mais là pour les besoins du live.
On sera diffusé.
Ah oui. Je vous garantis. Oui, tout à l'heure à 23h. 15 ans,
parler avec des trucs de couleur. Vous êtes sûr qu'on est branché sur quelque chose? Je me demande si on n'est pas un peu dans la voie de garage, un peu.
Mais c'est un peu ça.
Foulé dans le fond.
Vous avez bien vu, j'ai failli ne pas arriver. Oui. Vous avez bien vu.
C'est pas très. Oh, bah, je suis en train de m'inquiéter parce que je me dis, j'ai rarement entendu un silence.
comme si plus rien n'avait existé autour de nous. Vous allez sortir, c'est la fin du monde.
C'est la fin du monde.
C'est la fin du monde, je vous le garantis. Benoît Poulvord, on va bien sûr parler du film avec vous, Pierre Godot, mais j'ai regardé votre programme pour cette année 2019. 7 films entre ceux qui sont déjà sortis. Les deux fils, on avait parlé avec Félix Moati ici. Blanche comme neige, on en a parlé avec Lou de l'âge. Aujourd'hui, Raoul Taburin, ceux qui arrivent. Ça va, vous n'avez pas perdu Bernard
beaucoup, ouais.
C'est beaucoup. Hein,
c'est parce que je rends service. Non, mais attention, parfois je fais des trucs, je fais 10 jours, hein, parfois 15. Tu vois, avec Lou de l'âge, là, Anne Fontaine, c'est parce que j'adore Anne Fontaine en tant qu'ami. Et j'ai pris quoi, 15 jours? J'ai pris 15 jours.
Ah, mais 15 jours à.
Oui, mais enfin, quand même. Cela dit, je me fais fouetter quand même. Enfin, non, je me fais pas fouetter.
Un petit peu quand même.
Elle me fouette à la fin. Non, je lui demande de me fouetter, mais elle ne le fait pas.
Elle le fait.
Je me
rappelle plus très bien.
Tout ce que je sais, c'est qu'on était dans un village où les gens consommaient énormément d'alcool local. Et c'était assez ardu.
C'était quoi l'alcool local?
Je sais plus. De la chartreuse.
Parce que je viens de là-bas. Donc
dès l'heure à midi à la chartreuse, c'est compliqué. Bon, moi, je me plie à toutes les conventions.
Oh, je peux l'imaginer.
Donc, évidemment, vous vous doutez bien que
vous rendez service.
Avec beaucoup de générosité, et je me suis plié au. Mais c'est ardu. Hein. Anne Fontaine a beaucoup de mérite. Parce que j'ai quand même tourné Chartreuse en main.
Donc, vous avez fait tous les villages de France. Parce que donc la Chartreuse.
J'ai fait pas mal de villages de France.
Parce que là, c'est un autre village pour Raoul Taburin.
Il est des régions qu'il ne vaut mieux pas fréquenter trop souvent. La Chartreuse. Et en plus, j'avais déjà tourné le Grand Bain. J'avais fait le Grand Bain, j'avais tourné à Grenoble. Et j'ai rencontré le monsieur responsable de la Chartreuse. Hein, bon, je ne vais pas faire des publicités pour l'alcool parce que je ne bois plus de toute façon.
La verte ou la jaune?
C'est fini. C'est comme les gens qui ont arrêté, ils ne parlent que de ça. Pardon?
La verte ou la jaune?
Ah non, moi, je tire directement dans la verte. Est-ce que vous connaissez la Chartreuse, mes amis?
Oui.
Ça, allons pour. Ça, je peux te dire.
Au calme,
moi, déjà. Alors, ça boit comme des trous. Ah, ils savent recevoir.
Mais moi, je bois pas beaucoup, mais la Chartreuse, c'est quand même connu. Ouais.
Tu vois, sans pied n'a pas passé.
Une spécialité.
Sans pied,
il n'y a pas droit. Mais la Chartreuse.
Mais j'ai l'impression que. Mais en même temps, vous avez des climats rudes. Vous avez des climats rudes.
Oui, c'est froid.
Donc on va arrêter de citer son nom parce qu'il paraît que c'est interdit. Mais c'est bon quand même dans les climats rudes. Quand il y a la neige vient à tomber, la Chartreuse ne tarde pas à arriver.
Presque un Alexandre.
Oui, c'est presque.
Raoul Taburin, un secret. C'est l'histoire d'un type. Il est réparateur de vélo, il est marié, deux enfants, une star dans son village. Depuis qu'enfant, il a fait des sauts périlleux à bicyclette. Depuis, il a juré qu'il ne monterait plus jamais en selle. Pourquoi? Eh bien, c'est un secret, même s'il est vite divulgué dans la bande-annonce.
Si quelqu'un s'y connaît dans la région, en chambre à air, dérailleur, c'est bien moi. Raoul Taburin.
Bonne journée, Raoul.
Ma réputation est telle qu'on ne dit plus un vélo, mais un Taburin. Et pourtant, je n'ai jamais su monter à vélo. Et mon drame, c'est que jamais personne ne m'a cru.
Je m'appelle Hervé Figougne, je suis photographe.
Notre complicité fut immédiate.
Vous ne savez pas faire de vélo?
Nous étions comme deux vieux amis d'enfance. Figougne avait réalisé quelques portraits notables pour son projet Un village, des visages. On ne disait plus une photo, mais une figougne.
Il manque un truc là, non?
Toi, sur ton beau vélo, descendant les pentes à pleine vitesse, ça fait tellement longtemps.
Bon, malade de le dire là.
Qu'est-ce qui t'empêche de faire cette figougne?
J'ai senti que cette histoire de photo, ça mettait un franc entre nous, donc je voulais pas.
Je vais la faire ta photo. D'accord?
Je ne sais pas faire de vélo!
Et c'est vrai que Raoul Taburin ne sait pas faire de vélo. Il est seul avec son secret qu'il vit comme une imposture. Un personnage assez étrange à jouer. Première partie, j'ai regardé, en voix off.
Oui, c'était d'ailleurs une
gageure
parce que je me suis dit, on apparaît, même Edouard, Robert et moi-même. on apparaît que, ouais, après une demi-heure de...
Ouais, c'est j'ai regardé, j'ai calculé et tout ça, c'est ouais, difficile. Ouais, c'est hein.
À la moitié.
Ouais, ouais, à la moitié du film. Un peu moins de la moitié, ouais. Ouais.
Bah, c'était casse-gueule.
Ouais. Je me rappelle parce que... Parce qu'en plus, vous jouez plutôt... vous êtes un des rares acteurs quand même qui sait jouer de son corps. Non, mais qui sait jouer de son corps, quoi, franchement.
Qui gigote. Ouais. Mais ça a été compliqué hein, pour la voix off. Pour moi, j'aime pas faire ça. Comme je bouge beaucoup. Mais oui, c'est vrai, c'est presque un personnage, la voix off. Ouais. On l'a refait plusieurs fois pour des raisons.
Pour quel genre de raison, Pierre Godot, vous l'avez fait plusieurs fois?
Pour quel genre de raison? La première, c'est
non, que... la première, c'est parce que je tournais deux fils et qu'il m'avait lâché trop tard. Il m'avait lâché vers 3h du matin. Je devais être tôt le matin et j'avais plus de voix. Et donc, pour faire une voix, c'était un peu embarrassant. Alors, j'ai rencontré un barman qui m'a dit... Tu devrais prendre un grog. Alors vous allez me dire, vous parlez encore d'alcool, monsieur Boulevard. Pardon, mais c'est l'anecdote qui le veut.
C'est pour rendre service.
Bah,
hein.
Voilà, c'était pour rendre service. Et ce brave monsieur me tend un grog à base de rhum, si je me rappelle bien, et d'autres choses qui devaient être médicinales. Enfin, très très bien. Alors je trouve que ça va mieux. Alors ça malheureusement, je pense qu'un grog fait de l'effet, mais pas 5 grog. Alors moi, tout de suite j'ai dit, donnez-moi un autre.
Mais puis encore un autre pour optimiser.
Et Pierre était là, il me dit, t'es sûr? Parce que là on va quand même faire la voix. Enfin tu sais, je dis, mais non, je regarde comme ça va déjà mieux. Non, ça a été une catastrophe.
Mais c'était une bonne façon de découvrir le texte, de voir le film aussi pour après.
Tout ça pour dire que la voix, c'est que c'est un personnage à part entière. Ouais. C'était casse-gueule de se dire une demi-heure de voix. Je me suis dit qu'on allait nous le reprocher. J'attends la neige.
Qu'est-ce que c'est que cette expression?
C'est une expression typiquement québécoise.
C'est vrai?
Absolument. Ah, on dit souvent j'attends la neige, ça veut dire j'attends les ennuis.
Hubert Lenoir, vous confirmez?
Non, c'est j'attends les pierres.
Voilà, j'attends les pierres.
Les pierres.
Là, qui lançait la première pierre?
Voilà, qui a lancé la première pierre?
C'est surtout et n'importe quoi, Benoît Poulvorde. Juste une question. Un film qui est basé sur le mensonge, sur le secret honteux, une imposture. Vous avez des expériences chacun dans votre domaine? Vous, Benoît? Vous, Pierre?
Oh, on en a tous, hein, des petits mensonges. Mais quelqu'un m'a fait remarquer. Après, je vais laisser parler Pierre parce que
non, mais ne vous inquiétez pas.
Quelqu'un m'a fait remarquer. Ça pourrait très bien être un analphabète.
Oui.
Imaginez-vous que vous ne sachiez pas lire, mais que vous savez reconnaître les livres juste à la tranche de la couleur du livre. Et puis un jour, on vous dit, mais lis-le, toi. Tiens, lis-moi. C'est pareil. Donc, des petits... celui-là, il est grave. Hein. Mais il y a des gens comme ça qui ne savent pas lire et qui n'osent pas le lire et qui se retrouvent perdus dans une salle d'attente en disant, merde, c'est où? Bon, bref. Et est-ce que nous, personnellement, on en a? On en a tous des petits mensonges. Hein.
Mais le sentiment d'imposture?
Moi, je trouve que c'est fondamental quand on est acteur. Je trouve qu'on doit... parce qu'un acteur... Ah, juste titre. Je parle au cinéma. Hein. Je ne parle pas pour les autres acteurs de théâtre. Ouais. Je parle pour Daniel Auteuil, qu'on a entendu tout à l'heure. Mais pour les gens qui jouent au cinéma, bah, c'est un minimum... ça me paraît un peu normal qu'on ait le syndrome de l'imposteur. Parce que tu viens avec ta bite et ton couteau. Hein. C'est donné à n'importe quel charlot de faire du cinéma. Il suffit de pas... C'est dans la charte du cinéma, il est écrit... Dans les 3 trucs à respecter, 1, il faut être naturel, 2, pas regarder la caméra, 3, je crois que c'est un truc, pas dire 2 fois la même chose. Et donc c'est vraiment les trucs de base.
Si ça ne tient qu'à ça, en effet.
Ah, ça ne tient qu'à ça. Sincèrement, alors je ne me fais pas plus modeste que je ne suis. Alors forcément, après, tu as acquis une certaine expérience, une certaine, voilà.
Agilité.
Voilà, agilité, ça c'est joli. Mais tu as toujours un petit peu honte de te dire, t'arrives, tu sais combien t'es payé, quand tu vois ce que les autres travaillent, tu dis, toi tu viens avec rien, moi je retiens le texte en une minute dans ma bagnole. Donc tu te dis,
ah, vous
tu
avez
viens avec ta bite et ton couteau.
Ouais.
Donc t'as toujours un peu honte. Ce qui explique, alors ça c'est ma théorie, que maintenant tous les acteurs, comme les Américains, se foutent des coachs pour tout. Parce qu'ils ont un peu honte de dire, en fait,
c'est vrai qu'en France,
tu
ça commence
de ton
à arriver.
Pieu, tu dis ton texte 3 fois, et puis tu sors, tu vas te coucher. Alors maintenant les acteurs inventent.
En France, ça commence à arriver, en effet.
Ça vient des États-Unis. Ils prennent un coach pour fumer une clope, un coach pour faire un sandwich, un coach pour se... Enfin, tu te dis, tu sais le faire toi-même. Il y a même des coachs de vie. Imagine-toi quelqu'un qui vient te voir et qui dit...
Oh, je vais vous devrais respirer.
Ouais, je vais vous apprendre à être heureux. Et comment on va faire? Vous allez me payer.
Pas de coach pour vous, Benoît Poulvorde? Pas de coach?
Je vais vous apprendre à être heureux. Voilà.
Non, il y en aura.
Et donc, je trouve que c'est ça. L'imposture, tu en as besoin. Parce que tu te dis tout le temps, je vais devoir... à un moment, ça va... Les gens vont se rendre compte et vont dire,
ça va se voir.
Rendez-moi l'argent.
Il est très rapide, hein. Il est aussi rapide sur un plateau, c'est-à-dire qu'il faut tourner à toute allure. Combien de prises?
Non, c'est pas plus de morceaux. C'est pour qu'il y ait plus de chansons. D'ailleurs, je vous félicite.
Très peu de prises.
Je vous félicite. Vraiment, c'est de la pop magnifique.
On va entendre un autre
morceau. Ah, dis donc, vous allez péter la France. D'ailleurs, on va réécouter très vite un morceau.
Oui, dans quelques instants.
On écoute un petit peu Pierre qui nous explique ce qu'il
va pas. Rapide sur un plateau.
Oui, il va très vite.
Impatient.
Il est impatient parce qu'il est très talentueux, donc comme les gens talentueux, ils comprennent pas que ça soit pas le cas pour les autres, quoi.
Donc, c'est agréable pour les partenaires.
Non, je pensais pas aux partenaires, je pensais à l'équipe, je pensais à nous.
Et de toute façon, ça va pas très vite.
Et Benoît, il sait qu'en plus, quand il a réussi sa prise, j'ai même pas le temps de dire couper qu'il est déjà rentré dans sa loge.
Vous savez quand vous avez réussi votre prise.
Non, les gens le savent en général. Ouais. Tu l'entends, je pense. Il faudrait demander aux musiciens, parce que les pauvres, ils s'embêtent. Mais, je pense qu'en général, tu te dis... On devrait même pas... Moi, je regarde jamais le combo. Et je pense qu'au son... Alors ça, je vais vous rendre hommage, parce que moi, j'adore la radio plus que la télévision. Et je trouve que le son... Tu peux réussir une prise si elle est bonne au son. Bon, après, s'il y a des problèmes techniques à l'image, on ne sait rien y faire.
S'en fout.
Mais si elle est bonne au son, elle sera bonne. Alors qu'elle peut paraître très bonne à l'image... Et très mauvaise au son. Ouais. Et à ce moment-là, elle n'est pas née.
Et moi, même,
donc je pense qu'avec le temps, tu entends quand même que le rythme a été juste. Quoi.
Et même en tant que réalisateur, moi, je ne regarde pas spécialement le combo...
pendant les prises.
Non, je préfère regarder
juste en écouter,
côté de la caméra et écouter. Et là,
moi, j'ai dû l'époque qu'il n'y avait pas de combo. Ah, j'ai démarré, il n'y avait pas de combo.
Et vous, Hubert Lenoir, quand vous faites pour l'enregistrement de Darlène, il y a eu beaucoup de prises ou c'est pareil, vous savez, très vite.
Ça allait quand même assez vite, donc les prises étaient assez rapides. Mais c'est j'adore les acteurs français. Vous êtes comme des rockstars. C'est incroyable. C'est différent qu'au Québec, les acteurs ils sont vraiment gentils. Vous faites plein d'argent.
Vous êtes très méchant.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi, Hubert Lenoir?
Non, mais c'est bien. C'est que vous avez confiance. Vous êtes sûr de vous. Non, c'est comme des rockstars. C'est incroyable.
Ah, sûr de nous. En même temps, je suis pas français. Donc,
vous êtes belge.
Ah, il est belge, mais c'est vrai.
Mais je pense quand même qu'il faut, c'est nécessaire quand même.
Non, c'est
il faut être sûr de soi.
C'est pour ça que je vous
parce attends. Que si t'arrives. Non, mais je le prends comme un compliment. Je t'assure, Hubert. Mais moi, je pense quand même que c'est fondamental d'avoir confiance en soi. Si t'arrives sur un plateau et que tu commences à
douter, c'est foutu.
Parce que s'excuser.
Si tu commences à t'excuser d'être là, tu dis oula, mon petit bonhomme, on va pas y arriver. Hein.
Pierre Godot.
Non, c'est très le sujet du film. Mais ce que tu disais au début par rapport à ta musique, le fait que tu aies changé ton nom, que tu avais envie d'arriver à être toi-même et que pour arriver à être toi-même, il a fallu changer ton nom. Dans notre film, c'est exactement ça. Enfin, le nom des personnages, ils donnent leur nom à ce qu'ils fabriquent.
Ce qu'ils fabriquent, c'est-à-dire celui qui fait de la photo, on ne dit pas la photo,
on dit une figouine.
Celui qui fait des vélos,
on dit un tabourin.
Celui qui fait du steak. Justement, ça c'est quand même assez intéressant parce que le film raconte l'histoire d'un village où les enfants ont repris les affaires du parent et donc il y a un déterminisme social terrifiant. Le fils du boucher devient boucher, la fille de l'opticien devient opticienne, le fils du facteur devient réparateur de vélo. Vous, on vous destinait à quoi, Benoît Poulvord?
Moi, personnellement
Quand vous étiez petit, on vous destinait à quoi?
Mes parents...
pas de plan pour vous.
Non, je pense que mes parents, c'était plus qu'est-ce qu'on va faire de lui, plus que de me décider à quoi que ce soit. En revanche, moi, je voulais être flic. Flic. J'adorais ça. Si j'avais pu, j'aurais été un excellent flic. Flic un petit peu gradé, quand même. Inspecteur, quoi, quand même, sur des enquêtes, quoi. Pas Truffion qui fait la circu. Non. Je commencerai là, parce qu'il faut commencer par le bas.
Et qu'est-ce qui vous a retenu, alors?
Eh ben, la vie des autres. Quand tu avances, et puis quand t'as 14 ans, tu vas pas être flic, parce que tout le monde est contre les flics, tout le monde n'aime pas ça, l'ordre, la loi et tout ça. Alors que moi, je me décidais à des enquêtes, à trouver le coupable. C'est pour ça que j'aime bien les faits divers et tout ça, et de me dire. En plus, maintenant, avec la police scientifique, il y a plein de trucs, quoi. Ça devient de plus en plus compliqué de tuer quelqu'un. Mais. Ça paraît rassurant ce que je dis, mais.
Un jour, j'étais dans la piscine.
Et j'étais dans la piscine et je dis. Putain, je connais tellement bien les trucs sur les médecines, les enquêtes et tout ça.
La police judiciaire.
Oui, que je pourrais tuer quelqu'un. À mon avis, je pourrais commettre un crime parfait. Et puis je me suis dit, merde, par contre, je n'ai personne que j'ai envie de tuer. C'est ça le problème.
On peut vous arranger le coup, plein d'ennemis.
Il faudrait que j'ai quelqu'un envie de tuer. Je ne suis pas assez psychopathe pour aller tuer sur le bord de la
route. Attends, ça c'est un super sujet.
Mais je n'ai personne à tuer, parce que sinon je me dis, putain, j'essayerais bien pour voir si ça marche.
Mais vous en foutez, vous pouvez tuer n'importe qui.
Oui, mais alors c'est trop facile. Ça, si vous tuez quelqu'un qui ne vous concerne pas... Alors ça c'est facile, c'est le crime parfait. Si vous vous promenez dans la rue, vous faites pan, et puis vous foutez le camp, voilà, on vous trouvera jamais. Là, ce qu'il faut, c'est plutôt préparer, aller tuer quelqu'un de ses proches. À la Colombo. Moi, j'adore Colombo. Hein.
Vous, Hubert Lenoir, vous avez arrêté votre scolarité assez tôt,
j'ai
je
eu
crois.
J'ai eu peur, j'ai cru que... Non, vous avez tué quelqu'un.
Vous avez égorgé quelques-uns.
J'ai arrêté, comme assez tôt.
Assez tôt, parce que vos parents vous destinaient à une carrière, ou vous aviez un projet en tête, ou c'était déjà la musique, la chanson?
J'avais aucun projet nécessairement, mais la musique est quand même arrivée tard dans ma vie. Mais avant, en fait, je faisais du sport, je faisais du ski.
Sport? Ah ouais?
Ouais.
Ski de descente ou ski de fond?
Ski freestyle.
D'accord. Freestyle. Pas mal.
Mais après, j'ai la musique est arrivée un peu sans que je m'en rende compte, en fait. Ouais.
Sans que vous vous en rendiez compte?
Ben, dans le sens que c'est arrivé, j'ai toujours eu un intérêt pour la musique, mais c'est quand même plus vers 15-16 ans que j'ai commencé vraiment
c'est
à jouer de la guitare.
C'est tôt.
Ben non, parce que pour plusieurs, ici, il y en a plein qui ont commencé comme plus à avoir... tu sais, c'est leurs parents qui leur ont montré... Moi, mes parents étaient vraiment pas artistiques, ils n'étaient pas musicaux non plus. Donc, c'est pas mon père qui m'a montré des vinyles de Led Zeppelin pour que je commence à écouter ça. J'ai découvert toute la musique que je connais aujourd'hui puis que je considère comme des influences. Je les ai découvert quand même assez tard.
Et vous êtes tous ensemble?
Ouais.
C'est
des musiciens qui c'est sous mon nom, mais ils jouent avec moi très souvent.
C'est ça. Et vous, quand vous jouez en concert, vous êtes joué en concert ici à Paris?
Oui, on joue à la maroquinerie.
Vous jouez de la musique? Vous avez
non, j'ai essayé d'être batteur.
C'est vrai?
On m'appelait le marteau. Je vous assure que c'est vrai.
C'est vrai.
Et je l'ai vendu pour un espagnol, je ne l'oublierai jamais. Et il en a fait un bar. Un bar pour mettre des bouteilles. Ouais.
De la batterie?
Oui, j'ai joué de la batterie, j'étais très mauvais. J'avais un groupe qui s'appelait Osmose. Mais vraiment mauvais. Je n'oserais même pas te montrer tellement c'est ignoble. Je ne voudrais pas faire de mal aux autres. Mais c'était affreux. Affreux. Et j'ai même joué, puis vous savez, vous devez vous jouer, et quelqu'un dit on cherche un batteur, donc je l'ai fait, je l'ai vécu deux fois. Et puis les types viennent jouer, et parce qu'on peut bouger la batterie, et vous voyez dans leurs yeux, oh, papa. Ils ne reviennent jamais. Bon, bah écoute, sympa.
Je fais un groupe tout seul.
Et j'ai joué beaucoup seul. Ouais.
Pierre Godot, en fait, compte, il n'y a que vous qui avez fait comme papa. Le père était réalisateur, distributeur, producteur, donc homme de cinéma de tous les côtés.
Exact.
Donc le fils a suivi. La carrière familiale,
disons que ça, ça me plaît énormément le cinéma, ça m'a toujours.
Troisième film quand même.
Ouais.
Vous êtes tout jeune en plus.
Ouais, non, ça va vite là, mais justement, oui, l'imposture, c'est quelque chose que je connais un peu forcément. Mon père étant dans le métier, et puis moi voulant y être, donc j'ai commencé à écrire mes histoires et tout ça. Et comme dit Benoît, enfin. Il n'y a jamais personne qui est venu me donner un diplôme pour me dire ça y est, vous êtes reçu, vous êtes réalisateur. Et...
C'est bien de s'autoriser par soi-même. Tout le monde l'a fait manifestement autour de cette table.
Exact.
Le film sortira en salle mercredi prochain. Je signale aussi une exposition de dessins originaux de Saint-Pé pour la réédition du livre Raoul Taburin. Ça commence jeudi à la galerie Martine Gossiot et c'est à Paris. Vous restez avec nous tout de suite. On va partir en live avec Hubert Lenoir.
Rendez-vous.
Hubert Lenoir, en live, Marion Guilbeault.
Il sera en concert
tout
à Paris.
Tout le monde remet les casques.
Ah ouais. Tout le monde remet son casque. Il sera en concert
moi,
à Paris le 17 avril, à Lyon le 18, au Printemps de Bourges le 20, aux Eurocaines de Belfort le 6 juillet, Vitrolles hier. Et il reviendra à Paris, parce que c'est complet, la Maroc, le 20 novembre au Bataclan. C'est à vous, Hubert Lenoir.
Cherchez à perdre.
Je suis venu te dire que tu peux changer. J'ai vu un avenir où les femmes libérées, où tu portais le cuir et la tête rosée. J'ai vu ton avenir. Je suis venu te dire que tu peux changer. J'ai vu un avenir de femmes libérées, où tu portais le cuir et la tête rosée. J'ai vu ton avenir. J'ai vu ton avenir. J'ai vu ton avenir. J'ai vu ton avenir.
All right. Hubert Lenoir. Merci. Fille de personne 2. Je vous présente quand même ces musiciens, ils sont assez exceptionnels. Au clavier, Vincent Gagnon. À la guitare, Alexandre Martel, qui a co-réalisé l'album. À la basse, il y avait Cédric Martel. Batterie, Olivier Beaulieu. Et saxophone, bravo, André Larue. Et à la technique, chez nous, à la prise de son, les super Guillaume Ledu et Nicolas Depagraf.
Hubert Lenoir, révélation de l'année, album pop de l'année, chanson pop de l'année, choix de la critique, tout ça pour un premier album. Vraiment bravo. Une revanche quand même, j'ai pu lire. Ça n'a pas été si facile que ça de produire cet album. Parce qu'en plus, on ne l'entend pas là, mais l'album est à 40% instrumental. Mm-hmm. Ce qu'on voit assez peu aujourd'hui dans le paysage musical. Ouais,
ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ben, c'était pas nécessairement difficile. Ben, y a eu, en premier lieu, ça a été difficile quand même de le faire parce que ça n'a pas été fait avec beaucoup de budget. Donc, je remercie les musiciens qui ont joué avec
Cachet.
Ben, pas gratos, mais,
ils vont
mais
se récupérer.
Quand même. Ouais, va falloir que. Mais.
On va faire un effort.
Mais en fait, oui, en fait, c'était un album que j'avais. En fait, c'est un projet qui est pluridisciplinaire, en fait. Donc, ouais. Il y a un roman, il y a un album aussi. Donc, c'était quand même assez difficile parce qu'au départ, quand j'arrivais puis je présentais le projet en étant un opéra postmoderne, c'est pas le genre de truc que les producteurs apprécient, envie de. Mais maintenant, c'est une revanche parce
non,
que.
Non, c'est
maintenant...
postmoderne, plus opéra. Après,
alors là, maintenant, je n'aime pas la musique. Vous dites, vous êtes entré dans la musique comme ça.
Oui, oui, puis en fait, puis maintenant, c'est une revanche parce que maintenant, ça vend, ça fait plein d'argent, puis les producteurs, ils sont pas là.
Vous êtes très jeune,
25 ans.
Oh là là
24
là
ans.
Là
24 ans et demi.
24 ans et demi.
24 ans et demi.
Oh, hein, bah, bravo.
24 ans. Mais oui, donc ça veut dire que l'album a été composé quand? Vous aviez quel âge?
J'avais, quand j'ai composé l'album, genre 22, 23.
Ouais, c'est ça, super jeune.
Un disque, super mais qui est aussi un roman, c'est ça?
C'est oui, exact.
C'est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que...
Oui,
ouais, ben en fait, ah merci. Ben c'est
une... Au départ, c'est un roman, au départ, c'est une chanson. Ça commence comment, Darlène?
Parce que c'est un album concept, hein. Ça raconte l'histoire d'une Québécoise qui rencontre un Américain touriste complètement dépressif.
Ben en fait, c'est...
Ça, c'est le pitch rapide. Hein.
C'est un Américain qui s'appelle Ashton qui est venu dans la ville de Québec pour se jeter en bas des chutes de Montmorency, afin d'y mourir. Puis en fait, l'idée est venue, c'est... un peu Noémie puis moi on a commencé à moi j'ai commencé à écrire un roman j'ai commencé à écrire un album, elle a écrit un roman, puis on s'est rendu compte qu'on est dès le départ que les thèmes auxquels on voulait les thèmes qu'on voulait aborder étaient quand même semblables, donc on a un peu allié nos forces pour faire rapidement c'est devenu Darlène le projet, puis c'était assez clair, on avait le titre, on avait un peu tout ce qu'on voulait faire, puis on l'a écrit. Ça nous a pris cinq six mois à écrire, un peu moins d'un mois à réaliser.
Il y a trois titres qui s'intitulent « Fille de personne » sur ce disque. « Fille de personne 1 »,« Fille de personne 2 » qu'on vient d'écouter, « Fille de personne 3 ». Elles sont qui, ces filles de personne? Elles s'adressent à qui?
À Darlène.
Ces chansons. Et c'est qui alors, cette Darlène? Parce que vous le dédiez, le disque, à mon amie Darlène.
C'est quelqu'un que c'est Darlène, c'est autant moi que quelqu'un que j'ai connu aussi. Puis ça a inspiré de plein de personnes, en fait.
T'en sauras pas plus. Bon, ne cherche pas, t'en sauras pas plus.
Non, je gratte.
J'ai pas envie d'en parler.
Vous avez le sentiment de représenter plus qu'un artiste au Québec, mais peut-être plus une génération, avec cet appel à s'affranchir, à s'émanciper. Vous dites, voilà, aujourd'hui, moi, j'ai envie d'être Hubert Lenoir, j'ai plus envie d'être la personne que j'étais avant.
J'ai pas envie de parler de la génération en tant que telle. C'est comme un peu un truc que les médias m'imposent, là. Parler pour une génération, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est. Je suis pas non plus une espèce d'étiquette ou une espèce d'égérie d'une certaine jeunesse, mais je pense que. Oui,
par exemple, vous savez, Benoît Poelvoorde, il parle au nom de tous les Belges.
Non, j'ai pas envie de me mettre toute la Belgique à nous.
Ouais, c'est ça.
Mais quand je dis. Sans parler d'égérie, mais quand même, quand on remporte 4 Félix, c'est qu'on représente quand même quelque chose pour les gens qui écoutent de la musique.
Oui, ça c'est sûr, mais après. je veux dire, moi, c'est un peu genre qui m'aime me suivre, mais il y en a beaucoup qui m'aiment, effectivement.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fleur de lys en tatouage, une fleur de lys qui éjacule?
C'est une fleur de lys, ça représente pour moi...
Ça n'a pas du tout le même sens, je sais, au Québec qu'ici en France.
Ouais, hein. Parce que pour ça, j'ai arrêté de l'utiliser, parce que là, c'est pareil, ici en France, c'est comme des racistes là, qui ont ça, là, ou je sais pas.
Mais, non, pas les racistes, mais les royalistes. Les royalistes. Ça n'a pas de rapport, hein, c'est pas la même chose. Pas forcément, vous savez.
Bon, en tout cas, moi, les gens des spectacles disent que les royalistes, c'est des racistes. Mais...
Bah, certains ont tort.
OK. En tout cas, on m'a dit que c'était peut-être péjoratif ici.
Voilà, ici, ça n'a pas du tout la même connotation qu'on a fait au Québec.
Surtout
si ça éjacule.
Ben c'est ça qui est cool aussi en même temps, parce que c'est un peu un symbole souverainiste chez nous. Mais moi, en fait, je me suis mis plein de souverainistes à dos, parce que pour eux, c'est un peu profaner un symbole qui est tellement... Donc, pour moi, c'est un peu ma conception de la souveraineté, puis de mon identité québécoise. Mais en même temps, c'est pas très sérieux. Puis un peu, c'est une façon aussi un peu qu'il y ait des souverainistes qui soient forgés contre moi. Ce qui me plaît beaucoup aussi.
Vous l'avez mis où, ce tatouage? Il est placé où?
Sur mes fesses.
D'accord, comme ça au moins tout le monde aura compris où vous mettez le souverainisme. Juste quelque chose par rapport à l'inspiration très glam rock que l'on peut voir, pas véritablement aujourd'hui, mais moi j'ai vu des images de concerts, il y a un maquillage, il y a vraiment tout un travail sur le costume, même si aujourd'hui le travail est quand même présent, mais pas de la même façon que sur scène. Le glam rock, vous ne l'avez pas connu. C'est ce qu'on écoutait chez vous ou quoi?
Non, c'est ça, comme j'ai dit, mes parents écoutaient pas ça. Non, moi, j'ai découvert j'ai pas nécessairement écouté de glam rock, là, puis je pense qu'il y a un truc un peu qui, avec le terme, qui m'agace un peu,
c'est quoi? C'est le mot glam?
Non, c'est que du moment qu'un jeune garçon met du maquillage, on dit, ah, ben oui, c'est sûr, tu fais une référence, c'est quelque chose qui est arrivé il y a 35 ans, alors qu'il y a toute une génération en ce moment qui porte du maquillage, pas pour ressembler à David Bowie, c'est juste parce que c'est dans notre identité sexuelle de porter du maquillage.
Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de ce son qui vous intéresse.
Oui, effectivement, oui. C'est ça, quand même. Oui, quand même, les années 70, mais en même temps, c'est pas non plus un album de glam rock, mais puis effectivement, oui, j'ai certaines influences. Moi, en fait, la raison pourquoi je suis de la génération d'Internet, donc pour moi, les influences venaient d'un peu partout, puis j'ai pas de décennie en particulier. Puis je pense que c'est très typique aux musiciens de ma génération, dans le sens que pour la première fois, on n'avait pas un groupe qui était... La génération avant moi, c'est Radiohead, comme vous dites ici. Puis ils écoutent juste ça, puis ça teinte leur musique. Mais maintenant, c'est comme un peu, on peut choisir.
On prend partout.
On prend du hip-hop, on prend un peu partout. Puis donc moi, j'ai pris aussi, autant de la musique des années 70 que des années 80 que des trucs des années 2000.
Parce que par exemple, on met le saxo.
Bah oui.
Ça va, parce que pour un album si jeune, tu vois.
Ouais. Et surtout, c'est un jazz.
Ça m'a vachement étonné.
Non, mais ça
donne bien, c'est très bien.
Mais c'est cool, mais ça impressionne les gens plus vieux. Mais pour les gens de ma génération, c'est comme. Pour nous, on vit dans une époque qui est post-moderne, puis on prend des influences de partout, puis c'est pas pour rien que les jeunes s'habillent dans des fripes, puis c'est que pour nous, ces sonorités-là, puis ces textures-là, c'est des trucs.
Mais c'est vrai que pour nous, ça n'a pas du tout la même résonance de voir un saxo sur scène avec un groupe si jeune.
C'est ça, mais pour nous, c'est quand même quelque chose c'est des sonorités qui sont quand même contemporaines.
On voit
pas ça comme de la musique rétro.
Ah ben non. Non.
Ils chantent en français? En général, quand on est très jeune, on se dit, je vais essayer de
pas au
parler
Québec.
En anglais.
Non, au Québec.
Je trouve ça très courageux. Très bien, je trouve ça très beau.
On a notre lot de groupes qui chantent en anglais au Québec quand même, mais... ça dépend. Moi, j'ai aucun parti pris. J'ai écrit en anglais aussi. J'étais dans un groupe qui était. Je compte écrire en anglais aussi. Mais non, l'anglais c'est la langue internationale. Mais après, le français aussi est intéressant. Puis moi, je peux pas nier le fait que je suis quand même. Même si je parle très bien anglais, je suis bilingue. Ma langue maternelle est le français. C'est sûr que je vais avoir toujours
toutes les langues quoi.
Je sais juste parler anglais et français. J'aimerais, si je pouvais écrire en portugais, j'adorerais, mais je connais aucun mot.
Des dates de concert, Marion Guilbeault.
Maroquinerie à Paris, 17 avril, Lyon, 18, le Printemps de Bourges, le 20 avril, et rendez-vous cet été aux Eurockéennes de Belfort, à Vitrolles, ailleurs, et le Bataclan, ce sera le 20 novembre à Paris.
Merci Hubert Lenoir, merci Benoît Poulvord,
et merci Pierre
Baudot, et merci à tous.
À tous les musiciens, bravo à vous tous.
Bravo.
Bravo à tous.
Bravo à toi. Like a crystal ball, that's cool, baby. So is you. That's how I roll. don't even gotta try.
Now you know.
I like shouting, they get better over time.
Now you know.
They just say I'm not the baddest bitch you like. Don't